Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Dans cet épisode du jour, je voudrais parler d'un sujet grave et éminemment important. Il s'agit de la situation horrifiante des Ouïghours. Mais qui sont les Ouïghours ? Les Ouïghours, c'est un peuple turcophone à majorité musulmane sunnite qui habite dans la région autonome du Xinjiang, en Chine. Ils cohabitent avec d'autres groupes ethniques, dont les Kirghizes, les Kazakhs, les Tibétains et les Han. Les Han constituent le plus grand groupe ethnique de Chine, 92%, et même du monde d'ailleurs. Si bien que par abus de langage, on parle des Han comme d'un peuple chinois, et que la langue chinoise se dit Hanyu, la langue des Han, au lieu de Zhongwen. Il y a donc là déjà un effacement. En tout cas, les Ouïghours ne sont pas des Chinois. J'ai moi-même passé 3 ans de ma vie à Shanghai, ville traditionnelle du futur, où j'ai occupé des fonctions managériales qui ne m'ont pas empêché d'entendre de la part d'une employée, Jamal, quand elle entendait dans la rue des bruits des gens qui criaient ou de pneus qui explosaient. Vous l'aurez sûrement deviné, ça veut dire, Jamal, dis à tes amis d'arrêter de tout exploser. Le sentiment islamophobe existe partout. J'ai pourtant passé des années à éplucher leur langue, leur culture, leurs réseaux sociaux, et tout m'amenait à être fasciné par la Chine. Tout, sauf le gouvernement, sauf le cadre liberticide. Depuis le 11 septembre 2001, l'idéal communiste d'une nation immense où tout le monde est à égalité a été perverti par le socialisme de marché, l'ultra-puissance des technologies, l'intelligence des élites qui ont choisi le capitalisme, et par un culte de la personnalité des dirigeants éternels. L'antiterrorisme a été synonyme d'anti-islamisme, et par amalgame assez commun, synonyme d'anti-islam. Depuis, les communautés ouïghours ont subi des répressions en crescendo. En mars 2017, le gouvernement chinois interdit le port du voile islamique pour les femmes et le port des barbes anormales pour les hommes. En avril, les nouveau-nés ne peuvent plus porter des prénoms comme Mohamed. Des campagnes de stérilisation forcées sont mises en place par les militaires. En août 2018, un comité d'experts des Nations Unies estime qu'un million d'Ouïghours seraient détenus dans des camps d'internement et que 2 millions d'entre eux le seraient dans ce qu'on appelle des camps politiques d'endoctrinement. On leur inculque l'idéologie du parti communiste, seule religion véritablement autorisée. On les force à manger du porc, à boire de l'alcool, à chanter 5 fois par jour des hymnes du parti. Des mesures de rééducation sont mises en place et sont censées prévenir une radicalisation potentielle. Les mosquées sont détruites, les enfants sont torturés, les femmes sont violées, les hommes émasculés. Le génocide nous rappelle les affres d'histoire ignobles de l'humanité, comme le génocide des populations autochtones du Canada, le génocide arménien, celui des Tutsis au Rwanda, ou bien sûr la Shoah. Alors il ne s'agit pas tant de comparer ou de hiérarchiser les horreurs, mais bien de reconnaître les exterminations planifiées par des États à l'encontre d'une population. Voyons ensemble en quoi ce crime contre l'humanité se double d'un caractère patriarcal, sexiste, raciste, xénophobe et islamophobe. Aux côtés de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui s'est inlassablement exprimé avec colère sur la situation terrifiante du peuple ouïghour, une femme incroyable est devenue le visage de la lutte pour la reconnaissance du génocide ouïghour. C'est cette femme que j'ai voulu inviter aujourd'hui. Elle s'appelle Dilnur Reyhan. Dilnur est née au Xinjiang et est arrivée en France il y a une vingtaine d'années pour faire ses études. Elle est devenue docteur en sociologie et s'est continuellement battue pour les droits des minorités ouïghours en Chine. Elle est enseignante à l'INALCO et à l'école des mines, Télécom. Elle est d'ailleurs présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe depuis mars 2019. Dilnur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Jeans Podcast.
Merci de m'avoir invité.
Alors d'abord, des éléments de contexte. Le Xinjiang en chinois signifie littéralement « les nouvelles frontières ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà en quoi cette région de Chine que les Occidentaux ont appelée le Turkestan oriental est une région dite autonome.
Et Xinjiang signifie effectivement non seulement nouvelle frontière, mais aussi nouveau territoire. Et anciennement, ce terme était traduit également par colonialisme et colonisation. C'est pourquoi c'est un terme colonial attribué par les Chinois, par les colonisateurs. Et c'est pourquoi aussi c'est aussi autant contesté par la diaspora ouïghour notamment. La Chine communiste, depuis 1949, c'est un héritier d'un territoire colonisé par le dernier empire, Manchou. C'est une population mongole qui ont gouverné tous ces territoires, qu'on appelle aujourd'hui la Chine, et qu'à la suite de ce dernier empire, par des révolutions nationalistes chinoises, contre les barbares, qui sont les Manchous, et ensuite, en 1912, les nationalistes ont donné un terme au dernier empire et ont fondé la République de Chine. Entre 1912 jusqu'en 1949, ça a été la des périodes chaotiques dans les territoires chinois, en Chine continentale, entre les nationalistes qui sont au pouvoir, et les communistes qui se sont formés à partir de 1921. Et ensuite, avec la défaite du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été aussi une opportunité pour les communistes qui ont vaincu également les nationalistes qui ont soutenu les Japonais, qui ont repris le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Chine. Sauf qu'en fait, ce territoire, non seulement c'est le territoire traditionnel des Chinois, mais aussi des territoires colonisés au cours du 19e siècle, notamment le territoire de Tibet et du Turkestan oriental, qui est le territoire ouïghour. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étant la Chine communiste, en fait, elle s'est rangée comme victime de l'impérialisme occidental, et ainsi, en se montrant comme grand frère des pays pauvres, la Chine a pu éviter la question de décolonisation et donner l'indépendance aux territoires colonisés tels que le Tibet, l'autre côté de la Mongolie, que la Chine appelle la Mongolie intérieure, et le territoire ouïghour, qui est le Turkestan oriental. Arrivé en 1984, ces territoires dits des minorités qui sont des territoires colonisés, la Chine leur a accordé un statut de l'autonomie. Mais la Chine a évité le terme république pour éviter que ces gens-là, plus tard, revendiquent leur indépendance. Et donc, au lieu de les appeler, de leur donner un statut à la manière soviétique de république autonome, la Chine a réduit en leur donnant un statut de région autonome. Et que ainsi, en Chine continentale, en Chine communiste, il y a depuis les années 50 cinq régions autonomes, tous des territoires colonisés et tous situés aux frontières. Donc en fait, qui partagent des frontières avec les pays étrangers.
Mais du coup, quels sont les enjeux géopolitiques à Pékin pour faire en sorte que cette région soit sous contrôle du gouvernement ?
Le territoire ouïghour. C'est le territoire, le plus grand territoire, qui occupe un sixième de territoire total de la Chine, parce que le pays ouïghour, ou alors le Turkestan oriental, très riche de sous-sol, c'est une immense source de pétrole et de gaz naturel pour la Chine, pour le développement de la Chine, mais aussi, en fait, dans toute la Chine, il y a 169 métaux rares pour la technologie d'aujourd'hui, et que 138 se trouvent dans le pays ouïghour. L'Asie centrale, notamment le Turkestan oriental et l'Ouzbékistan, ce sont deux points les plus importants du coton mondial. La région ouïghour, elle fournit à elle seule environ 85% de coton chinois et 20% du coton mondial. C'est la porte d'entrée de la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale. C'est pourquoi c'est si important, notamment, vous savez, maintenant, depuis 2013, Xi Jinping a proposé le fameux projet de la route de la soie qui passe par le pays ouïghour. C'est pourquoi, en fait, contrôler le pays ouïghour est si important Et sans compter, bien entendu, pour 1,4 milliard de Chinois, il faut les nourrir et installer, il faut des terres agricoles pour les nourrir. Et que donc, en fait, un territoire aussi large que trois fois la France est bien entendu primordial pour la Chine.
Alors Dilnur, au-delà des Ouïghours, il y a la question aussi des minorités musulmanes en général en Asie, qui sont victimes de persécutions croissantes. En Birmanie, il y a eu plus de 700 000 Rohingyas qui ont été contraints de quitter le pays en 2017. Les femmes musulmanes d'Inde se font arracher leur voile ou attaquer à l'acide. On a aussi certaines minorités musulmanes au Sri Lanka, aux Philippines, en Thaïlande, qui se font persécuter. Comment on explique l'explosion des violences islamophobes en Asie ?
Je pense que l'islamophobie, c'est pas que l'Asie, c'est le monde entier, hein. Et que depuis au moins 20 ans, je pense qu'en fait, être musulman, ne rapporte que d'ennui. Étant en France aussi, on évoque jamais dans des discussions qu'on est musulman. Pareil pour les Ouïghours, en fait, le 11 septembre 2001 était un tournant absolu et que c'était le début d'un projet génocidaire aussi, enfin, comme, à partir de là, la Chine a rejoint aussi la guerre mondiale contre le terrorisme, au nom duquel, en fait, elle a pu classer toute contestation collective ou individuelle Ouïghour comme de terrorisme. Donc, partout, même les militants écologistes ou pour les droits humains, sont classés comme actes terroristes. En ce qui concerne pour les Rohingyas, lorsqu'on regarde, enfin, ça aussi, en fait, ce n'est absolument pas question de, question, en fait, de religion, en réalité. Et aussi, en fait, derrière, il y a un grand soutien, justement, et des intérêts de la Chine. Encore une fois, on trouve derrière la Chine. Et effectivement, en fait, le 11 septembre 2001 a ouvert vraiment une porte pour l'islamophobie, il faut dire, et qu'à partir de là, des groupes, que ce soit des nations ou des groupes de population, en tout cas, ils sont visés au nom de terrorisme. Et que je pense qu'en fait, sans aucun doute, je peux dire que les Ouïghours étant une population la plus loin de tout cela, qui ont payé le plus fort de prix pour quelque chose que, comme on dit, enfin, chez les Ouïghours, on a un proverbe, on a payé pour des repas qu'on n'a pas mangés.
Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les Ouïghours sont déportés et internés dans des camps où ils doivent renoncer chaque matin à leur foi, à leur langue, à leur identité et doivent faire serment d'allégeance à Xi Jinping. Ils sont réduits à l'esclavage et permettent à des entreprises proches du gouvernement ou des multinationales comme Zara de s'enrichir. Pourquoi cet immobilisme généralisé face aux horreurs que subissent les Ouïghours ? Où sont les pays musulmans dans tout ça ?
Cette semaine, la délégation des pays arabes vient de rendre visite dans le territoire ouïghour et ont déclaré que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de génocide et que c'était des mensonges occidentaux. Voyez, en fait, en termes de... avant de parler de l'immobilisme mondial, il faut parler de collabos musulmans, plutôt. Pratiquement tous les pays sont collabos et... ce sont les pays occidentaux qui soutiennent les Ouïghours, même si le soutien est minime, même si c'est plutôt en fait dans la parole que dans l'acte. Mais au moins, en fait, c'était le devoir des pays musulmans de soutenir activement, ou au moins, comme dit en fait en islam, si tu peux pas soutenir par tes actes, soutiens au moins par tes paroles. Si tu peux même pas parler, fais au moins en fait dans ton cœur. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est en fait un soutien actif des pays musulmans et des sociétés musulmanes avec ce diable, en fait. C'est probablement en fait le diable qu'on parle en fait dans la religion, l'état diable. En 2018, à l'ONU, il y a eu deux questions pour lesquelles, en fait, deux violences de populations musulmanes pour lesquelles, en fait, les États ont voté pour condamner le pays persécuteur. Donc c'était les Ouïghours et les Rohingyas. L'ensemble des pays musulmans, ils ont voté pour sanctionner, pour condamner la Birmanie. Aucun pays musulman a voté pour les Ouïghours. Donc je pense pas que ça soit en fait un racisme anti-asiatique, même si en fait, le racisme anti-asiatique, en réalité, je le vis par ces populations peut-être musulmanes ou du moins de culture musulmane, ça je le vis en France, en effet. En revanche, en ce qui concerne en fait les populations en fait comme Ouïghours et Rohingyas, il y a une nette différence de traitement et que pour ces pays dits musulmans, en fait, leur dieu n'est pas Allah, mais c'est l'argent chinois.
C'est vrai que la violence inouïe de ce que subissent les peuples ouïghours n'est plus à démontrer. Il y a eu suffisamment de documentaires, de fuites d'informations classées confidentielles par le gouvernement chinois, d'enquêtes journalistiques brillantes, pour comprendre que ces espaces sont des espaces déshumanisants et inhumains. Mais, à l'intersection du genre et du racisme, les femmes subissent d'autant plus de violences, comme la stérilisation forcée. J'avais suivi le témoignage de Gulbahar ATYG, ou même de Gulbahar Jalilova, rescapés ouïghours qu'ils ont stérilisés, torturés, violés dans un camp. La grande question, du coup, pour toi, c'est en quoi la libération ouïghour est aussi un combat féministe ?
Ne pas reconnaître le génocide des Ouïghours, c'est aussi du sexisme. Bien sûr, en fait, dans tous les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui sont ciblés. Enfin, dans les crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou alors crimes de génocide, lorsqu'on voit en fait la tactique de l'ennemi, c'est d'abord massacrer massivement les hommes. Donc, c'est en fait il y a meurtre de masse. Ensuite, les femmes. Et les enfants. Et que les femmes ne sont pas massivement tuées, comme contrairement aux hommes. Et que comme en fait dans les camps, il y a majoritairement des hommes, mais ceci dit, il y a aussi beaucoup de femmes. Mais les femmes, souvent dans ces conflits-là, donc en fait, elles sont gardées pour humilier toute la nation. On les viole, on contrôle leur corps, on les humilie, et on utilise comme esclave sexuelle. Et donc, c'est une forme d'humilier toute une nation. Et c'est au moins aussi violent, aussi fort que le meurtre de masse. Cependant, les chercheuses, notamment en fait les femmes, les chercheuses scientifiques qui travaillent sur la notion de la convention de génocide, elles constatent que la convention de génocide, ça date de 1948. À l'époque, toutes les institutions, non seulement de l'ONU, mais aussi toutes les institutions internationales, étaient occupées par des hommes. Et c'est pourquoi le sort des femmes et l'humiliation des femmes dans un conflit comme crime contre l'humanité ou génocide, et que, étant donné que le meurtre de masse concernait plutôt des hommes, c'est pourquoi, en fait, ça a été pris comme, en fait, La définition principale, même si la convention, elle ne dit pas cela, mais cependant, en fait, ça a été diffusé et aussi dans la conception générale des hommes et des femmes dans le monde, c'est en fait pour dire qu'il y a un génocide, il faut un meurtre de masse. C'est pourquoi, enfin, les chercheuses, les femmes travaillant sur les crimes internationaux, elle critique cela. Dans les institutions différentes, il y a de plus en plus de femmes, mais cependant, le pouvoir reste dans la main des hommes et ils sont toujours majoritaires dans les décisions. C'est pourquoi la violence faite aux femmes n'est toujours pas prise au sérieux ou encore prise au sérieux à l'échelle comme on prend au sérieux les crimes faits notamment contre les hommes. C'est pourquoi aussi, dans le cas des Ouïghours, génocide Ouïghours, qui est caractérisé notamment par des violences contre les femmes, bien au-delà des hommes, et étant donné qu'il n'y a pas devant nous un meurtre de masse des hommes, on ne prend pas au sérieux, et ça, c'est notamment même de la part de certains politiques qui se disent humanistes et qui se disent féministes, et qui ne voient pas. Parce que, en fait, ce sexisme institutionnel est tellement ancré dans leur tête également, comme des gens ordinaires, et qu'ils ne voient pas, et ils ne veulent pas apprendre non plus, ils ne veulent pas élargir non plus leur vision et leur compréhension. Le génocide des Ouïghours est un génocide caractérisé par la violence faite aux femmes, et c'est gender genocide.
En termes de violence sexuelle, il y a aussi les phénomènes des cousins, biaotin, qui s'inscrit dans une campagne de 2016 du gouvernement chinois pour, je cite, « unir les ethnies en une seule famille ». Ses prétendus cousins sont chargés d'intégrer les familles ouïghours à surveiller une fois que l'homme a été déporté pour cuisiner ensemble les plats chinois, pour apprendre ensemble les principes du communisme et puis pour partager le lit de l'épouse ainsi violée. Est-ce qu'il n'y a pas là une preuve supplémentaire que la violence sexuelle est une arme génocidaire ?
Et la cible principale, c'est les femmes, et l'arme, c'est les, comment dire, humiliation, viol et stérilisation des femmes, sans parler de travail forcé, travail esclavagiste, dans lequel la proportion des femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, puisqu'en fait, la, comment dire, l'incarcération dans les camps de concentration, ça concerne notamment des hommes. Ceux qui restent travailler, ce sont les femmes. Le viol et contrôle du corps de femmes, c'est une arme de génocide, oui.
Toi, Dilnur, tu as évoqué tout à l'heure le fait d'avoir été la cible de racisme anti-asiatique en France. Qu'est-ce qu'il en est de la communauté ouïghour en France ? Est-ce qu'il y a une discrimination en tant que ouïghour ici en France aussi ?
Il y a des racismes au niveau institutionnel. Hein. Toutes les personnes qui n'ont pas un visage occidental, on sait bien qu'en fait, on est constamment discriminé. Hein. Et puis, mais par contre, en fait, en tant que ouïghour, cette discrimination, on vit avec la communauté chinoise en France. Mais lorsqu'en fait, j'étais étudiante, comme beaucoup d'étudiants ouïghours, et on n'avait pas de réseau ici, et que pour chercher des logements, etc., et chercher du travail étudiant, etc., et parce que en fait, la communauté chinoise a une plateforme en chinois, totalement en chinois, entre eux, et que, où on peut trouver toutes ces informations et annonces quand on a besoin de quelque chose. Et que sans savoir au téléphone ou alors en fait par écrit, ils ne peuvent pas savoir qu'on est ouïghour. Et que une fois qu'on va sur place et que ils disent ah ouais, ils voient que enfin ah vous êtes ouïghour. Désolé, l'appartement vient de partir.
Je vais me risquer à faire un parallèle. En Chine, les personnes homosexuelles sont encore électrocutées pour prétendument guérir de leur homosexualité, alors qu'il y a encore un flou sur la loi à l'encontre des personnes LGBT+. Parce qu'en 2001, ça a été supprimé de la liste des maladies mentales, mais en 2021, la justice continue à dire que l'homosexualité est un trouble psychique. Donc je me demande, pour toutes les personnes ouïghours qui sont aussi LGBTQIA+, ça doit être une triple peine, une quadruple. Donc ça m'a fait me demander, est-ce qu'on peut lire la lutte ouïghour comme une lutte intersectionnelle ?
La violence et le contrôle ils concernent également en fait la population chinoise, même si c'est moindre. Mais comment dire en ce qui concerne la communauté LGBT ouïghour dans la région et que c'est bien sûr c'est triple et que multiple peine pour eux. Ils vivent encore plus de discrimination bien sûr. Et puis je sais aussi que enfin une personne trans il a été incarcéré dans un camp pendant 2 ans et que pendant 2 ans il avait disparu et au bout de 2 ans il est sorti pour dire que en fait il était dans un camp. Lorsqu'en fait on les met dans des camps, dans quelle cellule on les met ? Effectivement, il y avait aussi en fait un témoignage que en 2017 j'avais lu le témoignage d'une jeune lesbienne qui s'est mariée discrètement avec une chinoise à Urumqi dans la capitale ouïghour. Et que elle, malgré que elle est si intégrée la manière chinoise qu'elle vit en fait avec sa femme et que sa mère même, sa mère ouïghour l'a acceptée. Et que malgré cela, ils ont en fait le couple, elles n'ont pas réussi à louer un appartement parce que en fait elles venaient ensemble pour signer. Et lorsqu'en fait, comment dire, et le propriétaire voit immédiatement, ah oui, tu es ouïghour, non, on te donne pas. Parce que la discrimination, elle est, d'autant plus depuis le début de génocide, ce n'est plus une discrimination, c'est ouvert, c'est la porte ouverte, voilà, à tout. Donc, elles ont contacté la banque pour avoir des crédits pour acheter une maison, étant donné qu'elles n'ont pas trouvé, elles ont décidé d'acheter un appartement. Et la banque, lui a téléphoné en disant que parce que tu es ouïghour, on ne peut pas te prêter de l'argent. C'est ce que j'essaie de dire à la diaspora aussi, que en fait c'est notre lutte est intersectionnelle, notamment en France. La cause ouïghour elle est très soutenue par la communauté queer Et que c'est ce que le message que j'essaie de passer aussi à la diaspora ouïghour, que ce soit le féminisme, la cause des femmes ou la cause de la communauté queer ou la cause comme la cause de décolonialisme, tout cela en fait en réalité c'est de les mêmes en tout cas en fait comment dire, c'est ça converge toutes ces luttes et que on doit se soutenir entre nous. J'espère par le soutien des différentes communautés que les préjugés peuvent exister et que la discrimination envers la communauté queer aussi dans la diaspora ouïghour puisse réduire.
Mais alors du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement, au-delà de mettre un carré bleu sur Instagram, pour tenter d'apporter notre soutien à cette cause ?
Ben, déjà, il y a multiples de choses à faire et que tout le monde peut faire en plus. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. S'informer déjà, d'abord. S'informer, donc suivre en fait nos comptes. Et informer ensuite, partager nos informations pour informer aussi à notre entourage, nos réseaux. Et puis venir à nos événements lorsqu'en fait on organise des événements, des projections. Voilà, venir soutenir les événements et ne pas laisser seuls les Ouïghours. Les médias en parlent bien moins maintenant de la question Ouïghour. Nous avons encore plus besoin de toutes ces personnes humanistes. Et puis que nous contacter l'Institut Ouïghour d'Europe. Nous avons besoin des bénévoles en permanence parce que nous sommes tous bénévoles dans l'Institut. Ou alors, en fait, pour toutes ces personnes qui ont les moyens financiers de venir en aide financièrement à l'Institut, parce qu'on galère toujours et qu'on n'a toujours pas un local. Depuis 4 ans, on n'a pas suffisamment de budget. En fait, et donc, en fait, il y a de multiples canaux. Bien entendu, tout soutien est bienvenu.
Alors, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques mois de cela, un pote de pote, blanc, bourgeois, parisien, m'a dit « Oui, enfin, c'est pas en m'arrêtant de porter mes Nike qu'ils ne vont plus les torturer. Et puis de toute façon, on peut rien faire contre ces Chinois, ils sont trop forts. » Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place ?
Ça, c'est du pessimisme primaire, moi je dirais. Si en fait tout le monde pense comme ça, pourquoi on lutte ? Pourquoi on vit? Ça veut dire qu'avec cette vision, ça veut dire que ça sert à rien de vivre, en fait. On doit lutter contre les inégalités et contre, en fait, les injustices. Éviter de soutenir ces injustices. Le génocide ouïghour, non seulement c'est un gender genocide, mais aussi, en fait, c'est un génocide de capitalisme. C'est grâce au capitalisme que la Chine a continué, parce que je rappelle que ce génocide n'est pas un génocide classique, c'est un génocide en cours depuis 2016-2017. Et donc, en fait, chacune de nos dépenses contribue au capitalisme chinois, au totalitarisme chinois et au génocide. Donc c'est pourquoi enfin la moindre des choses c'est d'éviter de donner de l'argent à cette machine génocidaire.
Dilnur, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions.
Ben je t'en prie, merci pour l'invitation et je peux te souligner que tu sais le mot jeans c'est un mot ouïghour aussi parce que ça vient d'arabe et donc jeans c'est le sexe en ouïghour.
Eh bien incroyable, effectivement jeans ça veut dire sexe en arabe mais du coup ça veut dire sexe aussi en ouïghour. Et sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte @jeans-podcast sur Instagram. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Jeans Podcast.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.